On entend que les jeunes sont fainéants, paresseux, hyperactifs, maladroits, mauvais, égoïstes, qu'on ne pense qu'à nos copains, individualistes.
Recherchons ensemble comment comprendre et mieux accompagner la jeunesse actuelle.
Journée jeunesse, lundi 17 octobre à Lavelanet.
Jeudi 24 novembre 2011 à Foix.
Jeudi 26 janvier à Foix. Trois journées complémentaires.
Sur inscription.
À destination des parents, élus et professionnels pour échanger sur le thème de la jeunesse avec des experts de renom. Chacune suivie de soirées d'ouverture au public, comprenant intervention de jeunes, conférences, débats et échanges.
C'est là que sera le moment pour nous de nous exprimer. Renseignements sur les sites internet des mairies de Foix et de Lavelanet.
Tout est dit, ou presque, dans le spot radio réalisé par les jeunes de Foix pour présenter les journées jeunesse. Pour aller plus loin, je vous propose d'écouter Catherine Séné, responsable du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance du Pays d'Olme, Norbert Meller, adjoint au maire de Foix, en charge des questions de politique jeunesse. Ensuite, nous nous tournerons vers l'anthropologue Serge Escott. Mais tout d'abord, Catherine Séné explique pourquoi ces journées.
Alors, on s'est rendu compte donc, au niveau d'un certain nombre de partenaires professionnels qu'on avait des difficultés à travailler avec les jeunes par rapport à ce que nos formations nous avaient apporté. Et on voyait bien que le public jeune évoluait et qu'on avait pas forcément les bons outils ou les bons questionnements par rapport à ce public. Donc on a travaillé pendant un an à réfléchir à pourquoi ce public-là nous posait problème et quelles seraient les solutions qu'on pourrait trouver, sachant que ce qui nous est vraiment apparu, c'est que les solutions devaient être collectives, obligatoirement, et multipartenariales. D'où l'idée de ces journées jeunesse pour rassembler un ensemble de partenaires, enfin tous les acteurs locaux autour de la jeunesse, que ce soit les professionnels, mais aussi les parents, les élus, pour se poser la question, en gros, de qui sont les jeunes aujourd'hui et comment est-ce que, partant de cette connaissance de la jeunesse, comment est-ce qu'on peut mieux les accompagner, nous, adultes, pour construire la société de demain.
Quand vous dites nous, les organisateurs, ce n'est pas seulement le CISPD de Lavelanet. En fait, il y a deux territoires qui sont essentiellement concernés. C'est le territoire du Pays d'Olme et le territoire de Foix.
Voilà, puisqu'on s'est associé effectivement avec le CLSPD de Foix, Ferrières-Montgaillard, pour organiser ces journées, pour rassembler vraiment un maximum de partenaires autour de ces questions-là, puisqu'on partageait les mêmes questionnements.
Est-ce que ça veut dire que ces questionnements n'existent que sur ces deux territoires-là, ou les deux autres territoires n'ont pas été encore associés à cette réflexion, selon vous ?
Alors, ce sont des questionnements qui sont vraiment transversaux et qui se retrouvent au moins au niveau de toutes les sociétés développées actuelles, donc c'est au niveau du monde occidental. Après, alors pourquoi ce choix ? Bon, c'est parti donc d'une idée du Pays d'Olme, et on travaille avec le territoire de Foix sur un ensemble de projets différents autour de la jeunesse, donc ce qui nous a rapprochés.
Comme Inside Out, par exemple.
Voilà, comme le projet de JR Inside Out, comme la création de conseils participatifs de la jeunesse sur Lavelanet et sur Foix. Donc on travaille aussi sur des passerelles méthodologiques. Donc c'est pas par exclusion sur d'autres territoires, hein, c'est simplement une volonté de pas travailler aussi uniquement sur son territoire, mais de s'enrichir avec un autre territoire. Et on a aussi ici, dans cette journée, des gens qui interviennent soit au niveau départemental, soit qui viennent aussi d'autres territoires que Foix et Lavelanet.
La journée aujourd'hui, c'est à Lavelanet, mais il y a deux autres journées prévues à Foix, le 24 novembre et puis une autre mois de janvier.
Le 26 janvier, oui.
Voilà, comment vous avez réfléchi à ces trois thématiques, puisque trois journées, trois thématiques en fait.
Oui, alors on a vraiment construit en fait à partir des constats de départ qu'on avait, des questionnements qu'on avait. On a essayé de voir quels pouvaient être les chances disciplinaires qui pouvaient nous apporter des réponses. Donc aujourd'hui, on est plus effectivement sur donc une approche anthropologique donc de la jeunesse. La seconde journée, c'est une approche plus sociologique. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un peu comprendre qu'est-ce qu'un jeune. On va dire, pour simplifier, la journée du 24 novembre, on va être plus sur le jeune dans son environnement, dans la société actuelle. Et sur la troisième journée, puisqu'on a quand même sur une approche sur la prévention de la délinquance, on va être sur alors la délinquance, mais pas uniquement, hein, puisqu'on va être sur les questions de sanctions, et sanctions, réparation et prévention de la récidive, mais qui peut se prendre aussi de manière très simple, c'est-à-dire au niveau de la famille, la punition de l'enfant, par ses parents, la punition de l'enseignant, sur quel sens on peut, on doit y donner par rapport à ce qu'est, voilà, qu'est-ce qu'un jeune aujourd'hui.
Oui, c'est la première des trois journées, et c'est en tant qu'adjoint au maire de Foix que je suis là, puisqu'on a établi une collaboration entre le Pays d'Olmes et le Pays de Foix, qui, je l'espère, dans les années à venir, s'étendra sur l'ensemble du département, parce que la réflexion concernant les politiques jeunesse, de mon point de vue, doit être des réflexions qui portent sur l'ensemble du département, au moins pour les grandes orientations.
Qu'attendez-vous de ces orientations qui vont être prises à la suite de ces trois journées de colloque? Parce qu'on sait bien que ça ne va pas forcément très vite, une réflexion s'amorce, peut-être que les résultats se feront attendre.
Rassurez-vous, il n'y aura pas de changement radical des situations. Simplement, nos animateurs, nos professionnels sont tous les jours sur le terrain. Ils traitent les problèmes concrets au jour le jour, au travers d'outils que sont les activités. Nous, nous les accompagnons et nous avons aussi la tête dans le guidon quotidiennement. Ceci étant, de temps à autre, il faut savoir s'arrêter, réfléchir, pour revisiter nos pratiques et remettre en cause finalement le travail qu'on fait. Et ce sont des ajustements parfois très ponctuels qui font qu'on essaie d'investir les marges de progrès. On ne peut pas faire que réfléchir sans ne rien faire à côté, sans travailler à côté. On ne peut pas non plus travailler en permanence sans réfléchir. Donc les deux vont de pair, il faut trouver le point d'équilibre entre les deux, le centre de l'union.
Et alors vous, par exemple, vous avez assisté tout ce matin aux interventions de Gilles Scott, l'anthropologue. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, tiens, là.
Oui, mais c'est surtout au plan théorique qu'on a réfléchi ce matin. Par exemple, quand M. Esco ce matin fait le lien entre l'évolution de la société et l'évolution des exigences du vivre ensemble, a priori comme ça, je ne suis pas convaincu, donc il va falloir que je réfléchisse sur ce point très particulier. Concernant également l'autorité, j'ai trouvé qu'il fallait qu'on fouille davantage. Il y a quand même des éducateurs et des éduqués, et le point d'équilibre entre ce qu'il appelle la transversalité et la verticalité des comportements, ça c'est à creuser pour savoir où on met le cursus. Après ça pointe aussi des pratiques qui me semblaient toujours difficiles de comprendre. Par exemple, la différence de statut qu'il y a entre un éducateur et un élève. Et à côté de ça, dans les établissements scolaires des collèges, parce que c'est le collège qui nous pose, enfin, c'est pas le collège qui nous pose problème, c'est l'âge collège qu'on maîtrise le moins. À côté de ça, on fait siéger des enfants dans les conseils d'administration en leur laissant entendre qu'ils sont à égalité de droit. Donc je trouve qu'il y a là a priori un paradoxe qui n'existe peut-être pas, mais moi je le ressens comme ça, qu'à un moment donné, il faudra que j'essaie de dépasser. Voilà quelques deux ou trois exemples de ce qui a couru dans ma tête ce matin dans la réflexion.
Reportage réalisé au cours des premières journées jeunesse de l'Ariège. Écoutons maintenant Serge Escott. Il est anthropologue et psychothérapeute familial. Et l'intervention de ce matin s'intitulait « Quelle évolution connaît la jeunesse ?» Quelles évolutions connaît la jeunesse ? Mais on aurait aussi bien pu l'intituler, il me semble, « Quelles évolutions connaît la société ?»
Bon, en fait, j'aurais préféré qu'on l'intitule comme ça. Parce que le risque, ça serait d'indiquer la jeunesse comme étant le problème, alors que la jeunesse n'apparaît pas comme ça de rien, elle apparaît dans une société qui existe avant elle, qui génère toute une série de cadres de pensée, de formes symboliques dans lesquelles elle va inscrire sa façon de ressentir les choses, de construire des idéologies, de construire des façons de fonctionner avec les autres. Et que si la jeunesse fonctionne comme elle fonctionne aujourd'hui, et au fond globalement plutôt bien, elle n'est que le reflet de la société dans laquelle on est.
L'évolution principale, si j'ai bien compris, si je dis une bêtise, vous m'arrêtez, hein, l'évolution principale qu'a connue donc notre société, et donc par contre-coup notre jeunesse, ça se situe au tournant du siècle des Lumières, il y a environ 400 ans de cela, où on a cessé d'accepter ce que vous avez nommé la verticalité.
Disons que dans les sociétés, on est confronté à des processus qui sont et des processus verticaux, c'est-à-dire qu'il y a des différences de place qui induisent des hiérarchies, c'est-à-dire qu'on n'est pas tous à la même place dans les systèmes, et en même temps des processus horizontaux, c'est-à-dire des processus d'égalité dans la différence. Un système vertical est un système où chaque différence crée de la hiérarchie. Et un système horizontal est un système où la différence ne crée pas de hiérarchie, mais des processus égalitaires. Les sociétés ont de tout temps fonctionné avec ces deux registres-là, mais dans des proportions et des centres organisateurs différents. Pour faire simple, on pourrait prendre l'image de la photographie où on aurait un arrière-plan très verticalisé et puis au second plan des processus qui sont des processus très horizontalisés. Ça, c'est la situation à laquelle on est aujourd'hui. Alors que pendant probablement 40 000 ans, on était dans une situation inverse où au fond, on avait des processus qui étaient organisés par la verticalité, hein, Dieu, le roi, le père, et puis des quelques processus horizontaux évidemment qui continuent à fonctionner, mais dans un cadre essentiellement vertical. Aujourd'hui, et lentement, s'est mis en place une inversion de ces processus-là, et ceci a des conséquences sur notre façon de fonctionner avec les autres, mais aussi notre fonctionnement psychique, ce qu'on pourrait appeler au fond la normalité ou la pathologie. On n'est plus tout à fait aujourd'hui dans les mêmes formes de normalité, de pathologie. Non pas que les pathologies soient radicalement nouvelles, mais on va dire que la proportion de ces formes pathologiques et de cette normalité se modifie insensiblement ces dernières années. Avec une accélération qui est peut-être plus visible sur ces 15 dernières années, 10 dernières années, 20 dernières années, c'est difficile de le dater, mais j'ai l'impression qu'autour de nous, les enseignants, les éducateurs, les parents, les psychiatres, les psychothérapeutes, voient des phénomènes dans leurs consultations ou dans leur lieu de travail, des phénomènes avec l'enfance, la jeunesse ou l'adolescence, qui sont des phénomènes qu'on ne voyait pas de la même manière ou avec la même fréquence ou la même intensité il y a ne serait-ce une cinquantaine d'années.
En fait, on est à un tournant de notre société.
Voilà, je crois que le problème, ce n'est pas les phénomènes qu'on voit, c'est le fait qu'on est au tournant et qu'on hésite entre retourner en arrière en disant « Ah, le bon vieux temps, c'était quand même formidable. » Quand on avait des vrais pères solides, virils, moustachus, des vrais policiers qui ne faisaient pas dans la prévention et la discussion ou l'assistante sociale, etc., etc., des processus autoritaires. Il faudrait restaurer toute cette autorité de façon à avoir... des fondements symboliques qui ne sont absolument pas ceux-là. Et que ça ne sert à rien de dire égalité, lutte contre l'injustice, démocratie... Puis de l'autre côté, au fond, bafouer en permanence dans les processus sociaux et les relations humaines ces principes-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on arrive à un moment où c'est plus possible d'être dans au milieu du guet. Et je crois que c'est les jeunes qui nous rappellent ça. C'est-à-dire que quand ils voient des injustices, un certain nombre ne les accepte pas, donc ne respecte pas des autorités qui ne sont pas respectables. Alors ça demande... une forte exigence éthique hein, pour tout le monde, pour les parents, pour les éducateurs, etc. Et malheureusement, notre équipement psychique, c'est-à-dire on a grandi dans un monde qui était un peu différent, et on n'est pas naturellement porté à ces remises en question, on aimerait que les enfants obéissent sans avoir à leur expliquer pourquoi, et aujourd'hui, c'est plus possible. Donc je crois qu'on a un vrai tournant, un vrai changement, et le problème c'est est-ce que l'ensemble de la société est prête à accompagner cela. J'ai peur que si on ne fait pas ce pas là rapidement, au niveau de l'école, au niveau des soins, de l'éducation, de l'animation, de la parentalité, j'ai peur qu'on ait quand même une partie qui continuera à aller bien, parce que globalement les choses vont plutôt pas mal, mais une partie de plus en plus importante qui va en faire les frais, parce que n'aura pas eu accès assez tôt à un certain nombre de repères, n'aura pas eu assez tôt pour des raisons économiques ou des raisons sociales, ou des raisons simplement de transmission de certaines valeurs et normes, n'auront pas eu accès à cela, et eux vont en payer le prix fort, et c'est ce qu'on commence à voir, hein, des phénomènes de violence qu'on ne voyait pas, avec des enfants de plus en plus jeunes, la question de suicide ou de comportement autodestructeur qu'on voit de plus en plus fréquemment, et je crois que c'est plus le symptôme de notre malaise d'adulte que véritablement des problèmes de psychopathologie de ces enfants.
Ouais. D'ailleurs, là, c'est un colloque qui s'adresse aux acteurs du monde de l'éducation, au sens large. Hein. Et j'ai eu l'impression qu'ils sont nombreux encore à fonctionner dans les schémas de la verticalité, à s'étonner que les enfants refusent les contraintes imposées par des patrons qui nous sommes de faire gagner encore plus de profit à leur entreprise, que les enfants s'étonnent que les profs puissent être injustes et des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est de l'éducation aux parents et aux enseignants que vous faites finalement ce matin, non ?
Parce que comme il y a trois interventions, que je passais le premier, mon idée était d'essayer de donner quelques points de repère sur les changements fondamentaux au niveau des normes et des valeurs sociétales, de façon à ce qu'on puisse modifier notre regard sur ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Parce qu'effectivement, quand on est parent, enseignant, éducateur et qu'on est confronté à des phénomènes incompréhensibles parce qu'on ne les avait jamais vus se manifester avec une telle intensité. On est démunis. Et que le problème, c'est qu'on est tenté, effectivement, d'attribuer à ces phénomènes des causes qui ne sont pas fondées. C'est déjà de dire, au fond, c'est parce que cet éducateur est trop laxiste ou parce que cet éducateur... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si on tire ces conclusions-là, on va en arriver à des phénomènes de violence éducative de plus en plus importants. Que ce soit une violence symbolique, c'est-à-dire tu fais comme ça parce que c'est comme ça et je ne t'explique rien, jusqu'à la violence physique ou l'humiliation ou des punitions complètement délirantes d'une certaine manière. L'idée, c'est de montrer que les comportements que l'on observe aujourd'hui chez les enfants et les adolescents ont une cohérence avec les phénomènes profonds de la société dans laquelle on le vit. Du coup, on a une exigence en tant qu'adulte à modifier et adapter nos comportements éducatifs face à cette exigence. Et c'est probablement lié aussi au développement technologique, hein, Internet, l'informatique, etc., les nouvelles techniques de communication, qui font que les choses se sont propagées à une très très grande vitesse et que dans les sociétés, aujourd'hui, il y a une exigence de modification de nos positionnements éducatifs dans le lien social qui mettent en désarroi les adultes. Et je crois que la question, c'est comment collectivement on va pouvoir, plutôt que de se rejeter la faute les uns sur les autres, c'est la faute des enseignants, c'est la faute des parents, mais non, c'est les psys qui ne font pas leur travail, etc., etc., ou bien les politiques, de se mettre ensemble pour réfléchir à quel type de conduite à tenir on doit adopter et comment inventer des façons de faire éducatives et de soins qui soient conformes à ce qui habite l'esprit de ces jeunes qui, visiblement, ont pris très au sérieux, eux, le message du siècle des Lumières.
Mais depuis Françoise Dolto, depuis mai 68, moi je croyais que tout ça c'était acquis, l'horizontalité. Apparemment non, ou alors ça met une génération entière peut-être à se retraduire dans l'évolution.
Je crois que les problèmes sociétaux mettent énormément de temps à se mettre en place. Il faut imaginer qu'on a été sur une verticalité de l'espèce humaine pendant 40 000 ans à peu près. Au fond, 400 ans qu'on est dans une réflexion autour d'une remise en cause. Et peut-être 40 ans où, au fond, cette remise en cause est devenue effective pour certains sous-groupes humains, de façon relativement large, hein, depuis effectivement ce que vous appelez mai 68, etc., qui sont au fond un ensemble de révoltes qui étaient mondiaux, hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement à Paris en mai 68, mais dans l'ensemble des années 60, dans l'ensemble des pays occidentaux, il y a eu toute une réflexion pour, au fond, prendre au pied de la lettre la question... La question des Lumières, alors avec des excès, effectivement. Ces comportements verticaux n'ont plus de sens pour eux, ça ne fait pas sens, ils viennent interroger ça, nous déstabilisent parce que nous n'avons pas... On est partagé entre un modèle abstrait, théorique, qui est au fond celui des Lumières, et puis, ce que disait Bourdieu, des habitus qui sont des habitus, finalement, du 19e siècle, hein, parce qu'on a grandi dans un monde qui était lui-même structuré par des principes éducatifs du 19e. On est au milieu du gué. Par contre, aujourd'hui, il faut vite sortir du gué et aller sur la berge, parce que sinon, ça va être compliqué pour un certain nombre d'enfants et d'adolescents.
Il a triste mine quand il déboule à la cantine. Les autres petits font des batailles avec des clémentines. Le chef de table, c'est un grand blond qui l'embête. Celui qui dans les arbres lui avait perché sa casquette. Il s'acharne sur le petit qui lui a jamais rien fait. À la récré ses moqueries, même à la balle aux prisonniers. C'est la tête de dur, le genre qu'on court sur le parc. Avec un pull trop grand qui a tellement peur des clowns au cirque. À l'école, pour lui c'est l'humiliation. En sixième ce sera The Wall et commencera la sélection. Il serre encore les dents mais tiendra pas dans cette violence. Son petit cœur était pur mais maintenant il crie vengeance.